Eh bien bonjour, bienvenue à cette rencontre avec Étienne Davodeau. Alors vous avez vu sur les programmes qu'originellement il devait y avoir également Serge Joncour. Donc vous avez vu que je n'étais pas Serge Joncour, voilà, qui ne peut pas être malheureusement avec nous, mais nous allons profiter pleinement de cette heure avec vous, Étienne Davodeau, pour parler de votre bande dessinée, puisque vous êtes scénariste et dessinateur, passé par Rennes d'ailleurs pour vos études, et vous êtes l'auteur notamment de Lulu Femme Nue, des Mauvaises Gens, des Ignorants, ou encore de Cher Pays de notre enfance sur les années de plomb de la Ve République et du droit du sol, qui était une traversée de la France des grottes préhistoriques à l'enfouissement des déchets nucléaires. Deux albums pour lesquels nous avions déjà reçu ici même. Et récemment, vous avez fait paraître, voilà, si on peut, si à la technique, s'ils peuvent nous montrer la première image, une nouvelle bande dessinée qui s'appelle donc Loire, toujours aux éditions Futuropolis. Loire et non pas la Loire, il n'y a pas l'article, parce que Loire est presque un personnage, le personnage central de votre album, qui est une histoire de rendez-vous par la fiction. Vous racontez une reconnexion avec cette géographie, avec un homme qui y revient des années après l'avoir quitté. Et s'il revient, lui et d'autres, c'est pour retrouver une femme, ou en tout cas l'invitation d'une femme qui s'appelle Agathe, qui l'a invitée donc des années après son départ, mais aussi des années après leur histoire commune. Et elle a invité d'autres personnes à se retrouver en même temps, d'autres compagnons de sa vie. Mais Agathe, on l'attend, et je crois que je peux le dire parce qu'on le sait assez vite, Agathe ne viendra pas. C'est cela que vous racontez autour de ce fleuve Loire qui raconte le temps, qui raconte aussi cette géographie, puisque avant le rendez-vous, votre personnage va se baigner dans la Loire et puis il est un peu emporté par le courant qui va avec. C'est une géographie qui est aussi la vôtre, celle où vous habitez. Comment vous est venue l'envie de raconter cette histoire et ce fleuve?
Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Comment m'est venue l'idée? Eh bien, elle m'est venue, j'allais dire pour une fois, parce que c'est en général c'est pas comme ça que ça se produit chez moi. Elle m'est venue par des envies de dessin. Ça fait des décennies que je passe mon temps à dire que la bande dessinée c'est d'abord le récit et que le dessin est l'outil qui permet de mettre le récit en scène. Bon, là cette fois le dessin a primé chronologiquement au moins. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai grandi près du fleuve, j'ai même vécu sur le fleuve quelques années, j'en suis pas encore très loin, et c'est quelque chose d'assez stimulant visuellement, donc potentiellement graphiquement. Donc j'ai eu envie de dessiner la Loire, ses ambiances, ses ciels, sa faune, ses habitants. Et donc voilà, ma méthode est assez simple, ça consiste à passer beaucoup de temps au bord du fleuve, à se promener, à imaginer comment on pourrait y installer une fiction, puisque c'est un récit de fiction. Et donc j'ai imaginé l'histoire de Louis, donc, qui revient au bord de la Loire 30 ans après avoir quitté les lieux.
Oui, vous dites que c'est une envie de dessin, mais ça aurait pu donner un récit, ça aurait pu donner un carnet de voyage. Pourquoi est-ce la fiction, par la fiction, vous avez voulu raconter cette géographie?
Parce que le récit de fiction me permettait d'aborder pas seulement cette partie graphique et visuelle, qui est très agréable à faire, mais qui pourrait ne pas suffire. J'avais envie d'aborder aussi des thèmes qui sont un peu plus profonds, un peu plus complexes, nos rapports aux éléments naturels, nos rapports au temps qui passe, la façon dont notre regard et nos rapports avec ces éléments-là changent, ou en tout cas devraient changer, ou doivent changer. Et la fiction me procure cette liberté-là. C'est vrai que je fais d'autres livres qui ne sont pas de la fiction, que j'appelle de la non-fiction par défaut, c'est-à-dire qui relèvent un peu du reportage ou du documentaire en bande dessinée. Oui, parce que j'ai cette maladie, moi, qui m'empêche de faire autre chose que de la bande dessinée. Je suis obligé de faire de la bande dessinée.
Mais c'est une très bonne maladie, enfin, pour nous, en tous les cas lecteurs.
Je ne sais pas faire autrement. Donc, bref, pardon, la fiction s'est imposée assez vite parce que je voulais avoir l'espèce de liberté qu'elle propose et je voulais mettre en scène des personnages que j'imaginais pour illustrer tous ces propos dont on va peut-être parler plus en détail.
Ces personnages, je l'avais dit, c'est Louis qui est le personnage principal avec le fleuve que l'on suit, donc qui revient dans cette géographie des années après l'avoir qui était, et comme je l'ai indiqué il y a un instant, l'un de ses premiers gestes, c'est d'aller se dévêtir et d'aller se jeter dans la Loire, quelque peu emporté par le courant. Et puis, ça interroge beaucoup ceux qui rencontrent pour la dangerosité, justement, de ce geste. Comment, lui, il vous est apparu? Comment ça, cette histoire d'un retour, donc un retour vers une géographie, mais aussi un retour vers une femme qu'il a aimée, un retour vers une partie de sa vie, vous est venu? Et c'est donc aussi associé à cette géographie, hein.
J'ai essayé de mettre en scène ça de façon, en mettant en friction, en conflit presque, différentes générations de personnages au bord du fleuve. Donc je pars du principe que Louis est un type qui a à peu près mon âge, c'est-à-dire qu'il approche la soixantaine. Il a vécu il y a 25-30 ans une belle histoire d'amour.
On va peut-être pouvoir en voir sur un.
Voilà, c'est les premières croquis. Apparitions sur mes carnets de croquis de ce qui allait devenir Louis. Donc, vous voyez, les vaguement dégarnis, ça arrive à plein de gens à un certain âge. Bon. Donc bref, Louis revient sur le bord du fleuve à l'invitation d'une femme avec qui il a vécu visiblement une histoire d'amour qui l'a marqué durablement, mais il n'avait plus de nouvelles d'elle depuis longtemps. Donc 30 ans après, il se pointe au bord du fleuve, et l'idée pour moi, c'est de mettre en scène la différence qui s'est produite dans ces 30 années, c'est-à-dire que 30 ans après, il revient au bord du fleuve, pas pour le fleuve, croit-il, il revient pour voir cette femme, Agathe. Mais il revient dans un contexte où les rapports qu'on a avec ce qui pourrait être simplement un décor, joli, une rivière, un fleuve, ça aurait pu être une montagne, ça aurait pu être un glacier, une forêt, là c'est un fleuve. Les rapports qu'on a avec ça, qui étaient des rapports utilitaires ou esthétiques purement, on se rend compte que c'est des rapports qui changent, qui doivent changer. Notre perception des éléments naturels, de ce qu'on appelle un peu rapidement la nature, c'est pas les mêmes maintenant qu'il y a 30 ans. Et je mets ça en scène notamment par le fait que Louis rencontre des gens plus jeunes aussi, qui eux ont déjà intégré cette modification-là, et qui, sans le traiter de vieux con directement, lui laisse entendre néanmoins que notre regard sur ces choses-là doit changer.
Et dans les autres usages, est-ce qu'il y a la possibilité d'aller se baigner dans la Loire comme ce qui ouvre l'album?
Alors là,
parce que là, les personnes qui rencontrent à ce moment-là lui disent quand même c'est un peu dangereux, et en gros se demandent mais qu'est-ce qu'il fait là.
Alors moi, j'ai grandi au bord du fleuve dans les années 60-70, et j'ai été élevé dans l'idée que se baigner en Loire, c'était mourir, en gros. Et donc j'ai grandi près du fleuve avec cette espèce d'appréhension, dès qu'on y mettait un orteil, on allait être aspiré par les sables mouvants, par le courant, on allait se retrouver à Saint-Nazaire, enfin c'était... Et réellement, on ne se baignait pas. Enfant, on ne se baignait pas. Pas en Loire, en tout cas. Y a aussi des événements qui ont fait que la génération de mes parents ont été durablement traumatisés. Près de chez moi, il y a eu 19 enfants qui sont partis en été, qui se sont noyés lors d'une colonie de vacances. Donc, je peux comprendre que du point de vue des parents, ça calme un peu. Toujours est-il que la baignade en Loire, une fois adulte, moi, je la pratique. Évidemment, il faut faire attention. Évidemment, il y a des noyés chaque été. Évidemment, il y a du courant. Il n'y a pas de sable mouvant en Loire. Il y a des endroits où le sable peut s'effondrer, mais ce n'est pas des sables mouvants comme il y en a dans la baie du Mont-Saint-Michel. Bref, si on connaît un peu, on peut se baigner en Loire. Moi, j'y ai baigné mes enfants tout petits, je m'y baigne encore. Et c'est déjà le franchissement d'un interdit. Les berges de la Loire, mais je ne pense pas que ce soit propre à la Loire, sont truffées de pancartes interdiction de se baigner. Ça, c'est une protection juridique pour les communes, c'est assez classique. Mais en tout cas, l'idée que Louis, de retour au bord du fleuve, comme ça, 30 ans après, sur une sorte d'impulsion, se foutent à poil et se mettent à l'eau, ça parle de ça, c'est-à-dire que la connexion avec un élément naturel, elle passe d'abord par les sens. On peut parler d'écologie, on peut parler de la nature, mais rien ne vaut le fait de se foutre à poil et de se baigner dans un fleuve pour comprendre de quoi il s'agit. La preuve, il se fait embarquer par le courant. De la même façon, dans mon livre précédent, pour parler de nos rapports au sol, rien ne vaut l'idée de partir des semaines, marcher tout seul et dormir dans les forêts, etc. Ça empêche pas la réflexion, la méditation, ça la précède et ça la nourrit, je crois. Donc l'idée de passer par les sens, et donc par la baignade, nue en l'occurrence, en plus le pauvre Louis, je lui impose de se faire emporter par le courant et d'être déposé sur l'autre rive.
Il va rester nu longtemps.
Il se retrouve donc à poil, très loin de l'endroit où il a laissé ses fringues, il attend la nuit pour remonter le courant. Comme c'est la nuit, il traverse des champs d'ortie sans s'en rendre compte. Enfin bref, au niveau des sens, il est gavé. Et en tout cas, ce petit sas-là me permet d'évoquer ce point-là qui m'est cher.
C'est pas le seul endroit de connexion sensorielle à la nature, parce qu'il y a aussi un geste qu'il fait à plusieurs reprises et qu'on peut voir là aussi sur un croquis, parce que je vous remercie, vous n'avez pas envoyé que des pages de l'album, mais aussi beaucoup de travaux préparatoires qu'on va voir dans cette rencontre. C'est qu'il enlace aussi un arbre, ce que font pas forcément les autres personnes qui sont revenues à l'invitation d'Agathe. C'est-à-dire qu'il a quand même quelque chose de différent des autres dans ce rapport à la nature. Certes, on y viendra, il y a la jeune génération qui, elle, a un autre rapport, mais lui, par rapport aux gens de sa génération, il est peut-être le seul à avoir ce besoin de toucher, de s'immerger, de se plonger dans la nature à ce point-là.
Oui, mais c'est une sorte de remise à niveau, une sorte d'éducation. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu pour ça, mais le fait qu'il soit invité par une femme qui, visiblement, leur a posé un lapin, les rend disponibles. C'est-à-dire que je me retrouve, moi, scénariste de cette histoire, à mettre en scène 5 ou 6 personnages qui sont dans une maison, qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas de raison de s'apprécier particulièrement et qui se demandent un peu ce qu'ils foutent là. Pour un scénariste, c'est très amusant, ça, parce que du coup, on a un champ de liberté qui s'ouvre devant soi, et donc on peut les laisser interagir et mettre en scène toutes ces questions-là, le rapport au lieu, le rapport au fleuve. Il y a effectivement des gens qui se mettent à étreindre un arbre parce qu'on pense que cet arbre-là, je ne vais pas vous dire pourquoi, il est un peu important. Ça existe, la sylvothérapie, je crois. Il y a des gens qui vont en forêt étreindre des arbres. À titre personnel, je ne le fais pas, mais... Je mets en scène ce genre de choses et j'accède à l'idée qu'on ait envie de le faire. C'est pas la question, mais c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 30 ans, quoi. Voilà. Et c'est intéressant de se demander pourquoi ça n'existait pas, pourquoi ça existe maintenant, à quel besoin ça répond.
Vous avez trouvé des réponses à ces questions-là, parce que si vous choisissez de le raconter à plusieurs reprises en lassant l'arbre, c'est quand même vous y êtes intéressé. Pas que en disant c'est quelque chose de folklorique.
Non, mais moi j'aime bien mettre en scène justement des gens qui le font, des gens qui le font pas, qui se foutent d'eux un peu éventuellement, ou des gens qui le font en cachette après avoir prétendu ne pas le faire. Et il n'y a pas de réponse. En plus, c'est quelque chose qui est très individuel, qui est très personnel. Et donc, moi je mets en scène cette hésitation-là parce que des gens un peu rationnels peuvent trouver objectivement ridicule d'aller faire un câlin un peu plié. Mais aussi, on peut trouver très rationnellement que ça fait du bien. Donc moi, je ne vais pas trancher à la place des gens. Donc je mets en scène ces hésitations, ces allers-retours et tout ça. Je ne suis pas là pour donner des réponses, demander à des scientifiques ou à des politiques pour les réponses. Moi, je pose des questions.
Oui, et puis alors, vous le faites aussi dans un album où si on suit Louis, qui a quand même quelque chose aussi de l'album choral, puisqu'ils ont tous une sensibilité différente à la nature, mais pour revenir à l'intrigue qui est ce rendez-vous donné par Agathe à tous ceux qui ont été son compagnon, il y a aussi une pluralité de récits sur Agathe. Qu'est-ce qui vous intéressait aussi dans cette confrontation des récits? Certains, enfin la plupart ne se connaissent pas entre eux avant d'arriver. Et ils ne vont pas forcément non plus, alors ils n'ont pas le même rapport à la nature, mais ils ne vont pas non plus forcément raconter tout à fait la même femme ou leur même existence avec cette femme.
Non, c'est un portrait en creux, c'est-à-dire que ce personnage central qui serait Agathe, on ne la voit pas, on en entend beaucoup parler, il y a beaucoup de traces d'elle, c'est sa maison, c'est les lieux où elle a vécu. Ce sont des histoires que les autres personnages racontent sur elle qui effectivement peuvent se contredire, peuvent se compléter. Et faire un portrait en creux comme ça, c'est aussi quelque chose qui est assez stimulant parce que chaque personne qui lit le livre va reconstituer pour elle-même le personnage d'Agathe, qui n'est probablement pas celui que j'ai imaginé moi, mais ce n'est pas grave, et qui ne sera sûrement pas celui qu'a imaginé le lecteur d'à côté ou la lectrice d'à côté. Mais la bande dessinée, ça fonctionne bien comme ça. C'est-à-dire qu'en bande dessinée, on pose des petites bornes narratives comme ça, et les gens circulent à travers tout ça et génèrent leur propre récit, génèrent le mouvement et la vie des gens qu'on met en scène, parce que ce sont des images fixes, évidemment. Et donc la lecture de bande dessinée, c'est une lecture active, c'est une lecture productive. Et donc, parler d'un personnage qu'on ne montre pas, ça oblige la personne qui lit le livre à la créer elle-même. Et cette fonction-là, je l'amplifie par le fait que puisque tous ces gens qui ont partagé à un moment ou à un autre la vie d'Agathe se retrouvent ensemble sans se connaître, au bout de quelques jours, ils se disent « Bon, bah voilà, d'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais? T'as un boulot? T'as une famille ?» Et l'un d'eux dit « Non, on ne va pas faire ça. On ne va pas parler de nous. On n'est pas là pour ça. » Et donc, moi, ça m'oblige à animer des personnages sans le recours qu'on a en général quand on fait de la bande dessinée quand on crée un personnage, on lui crée une biographie, un milieu social, une famille, un métier, toutes ces choses qui nous servent à le caractériser. Là, d'emblée, j'y renonce Et d'ailleurs, un des personnages déclare qu'ils y renoncent collectivement. Et donc, j'anime des personnages dont on ne sait pas grand-chose. Le personnage principal, Agathe, n'est pas là. Les autres refusent de parler d'eux-mêmes. Me v'là bien. Et donc, le personnage,
en passant par un moment de trouille quand même, parce qu'ils rencontrent la fille d'Agathe, ils sont tous en train de calculer à peu près l'âge
voilà,
qu'elle a pour savoir si c'est pas eux enfin, l'un de le
pas,
faire.
On va pas raconter tout le livre. Mais en tout cas, l'idée, c'est que puisque tous ces personnages renoncent à leur statut de personnage, il y a un personnage central qui monte au fur et à mesure en puissance, en tout cas, c'est ce que j'espère, c'est le fleuve, c'est le Loir. Et donc, s'il n'y a pas là devant Loir, c'est parce que Loir est un personnage.
Oui, parce que c'est, vous l'avez dit, effectivement, ils ne vont pas se raconter le temps. Enfin, ce temps-là, en tous les cas, vous l'abolissez, le temps de leur histoire. Mais par contre, c'est ce que dit la fille d'Agathe. Elle dit elle s'en fiche un peu d'où elle vient. Elle vient de cette géographie. Il y a ça aussi qui vous intéressait, de cette manière de s'identifier, de se définir par la géographie, qui n'est pas forcément quelque chose de facile, puisqu'on se définit tous aussi par des histoires.
Oui, alors par la géographie, je me méfie un peu, parce que... J'ai tout de suite en tête la chanson de Brassens, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Et voilà. Donc il faut faire gaffe à cet esprit de clocher. Il faut faire gaffe à ce, on est tout près du nationalisme, on est tout près de ces choses-là. Donc c'est une autre dépendance que j'essaie de mettre en image dans ce livre-là. C'est une dépendance qui n'est pas géographique ou localisable comme ça, mais c'est une dépendance, par exemple, aux éléments naturels. En fait, c'est une interdépendance. Et ce que met en scène notamment le personnage de la fille d'Agathe, c'est ça. Là où, moi, quand je suis né, j'ai grandi dans un pays, dans un monde où on était des prédateurs. On se servait de ce dont on avait besoin dans l'espace naturel. Le pétrole, le sable de la Loire, le bois des forêts. On s'en servait parce qu'on en avait besoin. Voilà, point. Je crois que ces positionnements-là sont un peu caduques maintenant et que des gens plus jeunes savent qu'on peut pas, que c'est pas tenable sur le long terme. Probablement, on le savait déjà, nous, mais on voulait pas le savoir. En tout cas, les gens qui étaient adultes quand moi j'étais enfant, même si moi je suis né dans un milieu modeste, la question écologique, elle existait même pas dans mon champ d'expérience quand j'avais 7 ou 8 ans. On vivait au bord de la Loire, je pêchais sur la Loire, j'allais en bateau sur la Loire, j'adorais être sur la Loire, mais c'était un rapport très différent. Et donc, c'est cette nouvelle perception-là que j'essaye d'illustrer avec tout ça. Et donc, ce n'est pas une affirmation identitaire. Non, mais c'est une affirmation d'interdépendance.
Oui, puis elle dit quand même, vous lui faites dire quand même, Étienne Davodeau, qu'elle est attachée à ce lieu, que c'est quand même, certes, ce n'est pas un rapport nationaliste, identitaire à ce niveau-là, à ce lieu, mais c'est quand même ce lieu qui l'a défini, qui est pareil dans l'interdépendance, qui l'a défini, mais qu'elle aussi, dans lequel elle se sent pleinement être elle.
Oui, bien sûr, mais l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, je ne crois pas que ça soit que ça empêche tout ce dont je viens de parler, c'est-à-dire que c'est une dépendance consciente et volontaire, mais c'est pas du tout sur le même registre que je sais pas ce qui génère un spectacle comme Le Puy du Fou. Je prends un exemple au hasard comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire?
Pas du tout. Et puis il y a cette phrase, cette question, parce que vous l'avez dit, vous posez des questions, mais du coup je vais vous demander peut-être de nous l'expliquer, de dire ce que vous entendiez par là. Est-ce qu'un fleuve, en nous parlant de lui, peut nous parler de nous? Parce que ce que je commençais à vous dire, à vous demander dans ce que dit la fille d'Agathe, c'est cette double appartenance à la géographie, à un humain et d'humain à la géographie, il y a ça aussi. Qu'est-ce que le fleuve raconte de vous et raconte des personnages? Qu'est-ce qu'il renvoie aux personnages qui permettent de les identifier?
C'est difficile de répondre de façon générique à ça, parce que moi, je fais le pari que c'est une expérience individuelle et que c'est une question de disponibilité, personnelle ou pas. On peut s'en foutre. On peut passer devant tous les jours. On peut traverser les ponts pour aller bosser. Je reste toujours sur le cas de la Loire, pardon. Je suis un peu monomaniaque en ce moment, mais...
C'est pas le sujet.
C'est un peu le sujet. On peut s'en foutre et ne plus le voir ou ne plus le considérer, ne même plus y penser. Et puis, on peut, sur les mêmes lieux, au même moment, simplement y faire gaffe. Et être un peu attentif, ça ne demande pas un effort monstrueux. Moi, je préconise même l'hypothèse de prendre quelques heures et de s'asseoir dans l'herbe et de regarder ce qui se passe. Et la dépendance, la finesse de ce qu'on perçoit change tout de suite. Et une des choses qui me fait assez plaisir, c'est que le livre est sorti il y a 3-4 mois maintenant. Des gens qui vivent au bord du fleuve me disent « Ah, c'est marrant, on ne regarde pas pareil ». Donc, des gens qui le voient tous les jours, qui passent devant, voilà, mais qui ont des tonnes de trucs en tête, leur repas du soir, la journée qui s'est mal passée, donc c'est humain, c'est normal, c'est naturel. Mais voilà, si on dit juste aux gens, hey, regardez à côté, passez devant, mais c'est pas mal, et ça dit plus de choses que ça a l'air de vouloir en dire, c'est pas juste un décor, c'est toujours là-dessus que je reviens. Si ça fonctionne à l'échelle individuelle, ça me va.
Oui, parce que c'est un peu ce que vous illustrez avec le personnage de Louis qui relève un moment qu'en fait le fleuve il murmure. Alors que lui, qui a vécu à côté, ne l'entendait pas auparavant.
Oui, au sens littéral.
Il pas attention.
Louis tend l'oreille. On m'a fait remarquer, oui, c'est pour ça qu'il s'appelle Louis. L'apostrophe. Ah non, pas du tout, c'est un hasard. J'aurais pu dire, oui, effectivement, j'avais pensé à ça dès le début, mais non, il s'appelle Louis, comme ça, quoi. Et donc, oui, Louis tend l'oreille. Et écoute, alors il y a réellement, on peut entendre le bruit d'un fleuve, mais évidemment, moi, c'est sur un plan plus large et plus métaphorique que je. Mais c'est déjà une étape, toi. Si tu fais simplement, tu éteins ton téléphone et tu prends le temps d'écouter ce qui se passe, c'est déjà un premier pas dans cette direction-là. Évidemment, ce que nous dit un fleuve, à mon avis, est bien plus que le bruissement des arbres, du courant et des oiseaux et je ne sais pas quoi. Ce qui est important, ce n'est pas rien. Mais c'est une première étape. C'est l'étape sensible dont on parlait au début de la conversation.
Ce que nous dit un fleuve, mais ce que nous dit ce fleuve, en quoi l'histoire aurait été... Alors certes, c'est un fleuve que vous connaissez bien, mais en quoi cette histoire aurait été différente si vous l'aviez transposée dans une autre géographie que ce bord de Loire ?
Ben, je ne sais pas. Là, du coup, moi, je parle de ce que je connais bien. Donc, je parle de Loire plus facilement que du Rhin ou du Mississippi. Encore une fois, parce que j'y ai grandi, j'ai vécu et que je l'ai sous les yeux en permanence. La Loire a aussi cette particularité-là d'être, entre guillemets, le dernier grand fleuve sauvage d'Europe. Je dis entre guillemets parce qu'elle est quand même un peu aménagée, il ne faut pas déconner, mais elle est moins aménagée que beaucoup d'autres fleuves européens. Et elle a gardé cette espèce de côté fougueux, c'est-à-dire qu'elle est là en ce moment, elle est plein pot, et on sent sa puissance, ça ne rigole pas, elle est grise, et on ne donne pas envie d'y aller. Et cet été, ça va être des grands bancs de sable avec une ambiance balnéaire et un peu tropicale. Et donc cette espèce de côté changeant, imprévisible, éventuellement dangereux, mais souvent magnifique, c'est forcément une façon de nous parler qui est très singulière. Moi, je connais un peu le Rhin en Allemagne, par exemple, qui est entièrement canalisé ou presque, qui est parcouru de grosses péniches. C'est pas mal aussi, hein, c'est pas la question, mais c'est autre chose. J'ai participé avec quelques amis il y a 2-3 ans à différents voyages sur le Maroni en Guyane. On a fait un livre collectif sur le sujet. C'est encore autre chose. Chaque fleuve a sans doute une identité propre. Il se trouve que moi, voilà, le hasard a voulu que je sois né près de celui-là, donc c'est celui-là que je mets en scène.
Ouais, alors qu'il est plus sauvage, mais en même temps, qui est beaucoup plus calme, beaucoup moins fréquenté que le Rhin, ou beaucoup moins complexe que Maroni, comme vous le racontiez. Il y a une espèce de tranquillité aussi qui vous attire.
Oui, c'est vrai qu'il est, beaucoup moins... Enfin, c'est moins une autoroute à péniche que le Rhin, clairement. C'est moins casse-gueule que le Maroni. Mais néanmoins, il y a une vie dessus. Et moi, ça m'a permis, le fait d'y passer beaucoup de temps pour faire ce livre, ça m'a permis aussi de redécouvrir des choses qui me semblent assez encourageantes. Par exemple, le renouveau de la batellerie de Loire, c'est quelque chose qu'on sous-estime et qui est vraiment intéressant. Il y a actuellement des jeunes gens, qui construisent des bateaux de Loire. La batellerie de Loire, elle a disparu depuis 150 ans. Enfin, elle s'est raréfiée. Il n'y a plus beaucoup de pêcheurs professionnels. Évidemment, il n'y a plus de transport de marchandises. Mais la batellerie, depuis 5-10 ans, elle revient. Et des gens construisent des bateaux contemporains. C'est des vrais bateaux contemporains, mais évidemment inspirés de ce qui se pratiquait précédemment. Des bateaux à fond plat, des bateaux avec des mâts qui peuvent se rétracter pour passer sous les ponts, sur lesquels on peut se balader sur le fleuve. Et donc, le renouveau de cette batellerie, elle ramène des gens sur le fleuve. Parce qu'en fait, c'est con, mais des gens sur le fleuve, il n'y en a pas tant que ça, c'est vrai. Les gens sont au bord, ils pêchent, ils font du vélo. La Loire à vélo est un succès mondial.
Là, c'est l'autoroute, par contre.
Eh bien, pas tant. Moi, je fréquente beaucoup la Loire à vélo. Et il y a quand même 2 fois 1 200 bandes de berges. Hein, donc, ça, on peut délayer un peu. Mais cet été, j'ai rencontré 2 Texans qui faisaient la Loire à vélo parce qu'ils en avaient entendu parler. Donc, il y a cet effet-là d'attirance. Mais sur le fleuve même, il n'y a pas grand monde, à part quelques pêcheurs, quelques jet skis, c'est interdit. Quand on en chope pas, on le coule. Mais c'est bien que la batellerie de Loire permette aux gens d'y revenir. Et cet été, en septembre dernier, là, il y a eu la grande remontée qui a consisté, pour toute une flottille de bateaux de Loire, à remonter quasiment de Nantes jusqu'à Orléans, avec les passages sous les ponts, avec les passages d'endroits où il n'y a pas beaucoup d'eau. Ça a été très festif. Tous les soirs, il y avait des fêtes sur la rive et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui redonne un contact avec le fleuve. Donc, au départ, c'est un peu anecdotique, mais ça ne l'est pas tant que ça, finalement, parce que ça redonne l'occasion d'être sur le fleuve réellement.
Oui, c'est, enfin, effectivement, vous le disiez, c'est le grand enjeu contemporain. À Rennes, on a eu la même chose, on n'a pas regardé notre fleuve, la Vilaine, et puis depuis quelques années, on la réouvre, on la regarde, on la réapprovise différemment. Mais vous l'avez dit au tout début, il y a aussi des différences de perception suivant l'appartenance générationnelle, suivant la sensibilité dans laquelle on a vécu. Vous l'explorez, parce qu'effectivement, il n'y a pas que Louis, les gens de sa génération, il y a d'autres personnages. Qu'est-ce qui vous intéresse ici dans la pluralité d'approches liées cette fois-ci, alors soit à la génération, soit au niveau de vie, parce que vous avez un personnage alors, qui arrive pendant trois pages, qui est extrêmement bavard, qui nous assomme un peu, qui s'appelle Jalil, qui lui vient d'une classe aisée, qui raconte ses voyages en avion et autres, mais qui repart en laissant tout le monde un peu groggy à la fin, mais en gros qui est complètement déconnecté des enjeux contemporains. Qu'est-ce qui vous intéresse en cette pluralité d'approches sociales et générationnelles?
Le personnage de Jalil, il me sert un peu à ça, c'est-à-dire à raconter le gars qui ne voit pas les choses bouger et qui continue sur sa lancée. Moi, je me suis servi d'une anecdote qui est du coup strictement autobiographique et que j'ai mis que je laisse Jalil raconter comme si c'était une de ses expériences à lui. Quand j'avais 7-8 ans, à l'époque où Roissy 1 a ouvert, moi je viens d'une famille assez modeste, où prendre l'avion quand j'étais enfant était juste exclu, c'était pas une hypothèse possible. Mon père nous avait emmené, mes frères et moi, visiter Roissy 1, pour qu'on voit comment c'est les riches qui vont voyager à travers le monde. Et donc c'est ce que je fais dire à Zali, on était au zoo, mais les singes, c'était des riches qui prenaient l'avion pour l'Égypte, pour les États-Unis, et nous on regardait ça, on disait, waouh, c'est super, on n'ira jamais. Et Jalil me sert à ça, c'est-à-dire que l'avion, pour les gens de ma génération, ça a été un fantasme. Et puis, les vols se démocratisant, ça a été quelque chose qui s'est pratiqué à notre grande surprise. Oh, un jour, j'ai pris l'avion. Moi, j'avais 20 ans la première fois. Et je me suis dit, oh, incroyable, j'y suis. Et puis après, à la fois pour mon métier et puis pour mes loisirs, je l'avoue, j'ai pris l'avion de façon éhontée pendant 15 ans. Et puis maintenant, j'essaie de ne pas le prendre. Donc tout ça, c'est sur une génération. C'est-à-dire
vous dites, nous aurons vu ce mode de transport comme un fantasme, puis comme une banalité. Maintenant, c'est une honte. Effectivement, c'est suggéré tout ça le temps d'une vie.
Voilà. Et le personnage de Jalil me sert à mettre en scène ce genre de petit retournement qui ne se produit pas sur des centaines d'années, mais sur quelques dizaines d'années, où cette question-là se pose à nous, alors qu'on n'aurait pas imaginé une seconde qu'elle se poserait à nous dans les années 80 ou 90, à part quelques esprits plus éclairés que le mien, évidemment. Mais maintenant, on sent bien qu'il y a un problème. L'avion est un problème. Et malgré tout, on apprend qu'on forme des pilotes par milliers, que les carnets de commandes d'Airbus sont pleins à ras-bord. Enfin bon, bref, c'est pas gagné. Hein, mais c'est une des questions qui, même si ça ne concerne pas directement le fleuve, concerne notre rapport à la planète en général.
Oui, alors ça ne concerne pas le fleuve, mais ça concerne quand même un thème, et vous l'avez évoqué aussi au début, qui traverse quand même pas que cet album. Enfin, je pense quasiment toute votre bibliographie, c'est le rapport au temps, parce que vous aimez parfois raconter des histoires sur le long terme. Le droit du sol, c'était vraiment ça, des grottes préhistoriques à l'enfouissement des déchets nucléaires. Ici, il y a plusieurs temps qui se télescopent. Il y a le temps des générations, le temps d'une vie, et puis le temps d'un retour. Pourquoi le thème du temps est aussi présent chez vous?
Bon, c'est presque inévitable, j'allais dire. D'abord, il y a une chose, c'est que quand on fait de la bande dessinée, on s'inscrit forcément dans un temps long et lent. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est un travail un peu monastique. Et on est pendant des mois seul à dessiner. Donc on a un rapport au temps un peu particulier. Et du coup, c'est pas mal. Enfin, moi, ça me va très bien. J'ai pas besoin d'être dans une espèce de rush permanent. J'aime bien être dans mon atelier pendant des semaines et des mois à dessiner. Et donc, du coup, le rapport au temps s'incarne de façon un peu particulière pour nous. C'est-à-dire qu'on a, cette espèce de routine très lente qui consiste à travailler un an ou deux pour produire un livre et puis à recommencer. Et forcément, on a une sensibilité qui fait que c'est un sujet qu'on met volontiers en scène. Et puis, quand on parle d'une évolution, d'une perception, comme ça, ça passe forcément par la question temporelle, la question générationnelle. Il y a aussi des gens qui meurent dans ce livre. Et donc, il y a le rapport à la finitude aussi qui dans un fleuve, peut se poser. Ça, c'est des choses qui m'intéressaient de mettre en scène aussi. Donc, tout ça sert le même propos. C'est-à-dire que la question de la durée sur ces modifications de perception, elle est déterminante. Pour certaines choses, ça va très vite, on vient de le dire, pour l'avion, par exemple, dans le meilleur des cas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à voyager en avion, on s'en fout absolument de ces questions-là. Bien. Enfin, pas très bien, mais voilà, c'est comme ça. Et puis, sur d'autres sujets, comme ça, il y a des prises de conscience qui prennent du temps, littéralement.
Je voudrais qu'on revienne à votre dessin, parce que vous avez commencé en disant que cet album, il venait d'abord d'une envie de dessin, d'une envie graphique, avant que l'histoire ne vienne. Et on va le voir là sur quelques images que vous nous avez apportées, puis on verra des photos de... pas de la Loire, mais de votre Loire dans un second temps. Quel était l'enjeu pour vous ? Comment est-ce que représenter la Loire, qu'est-ce que ça signifiait pour vous ? On sait que les peintres, par exemple, pour ce qui est de la mer, ont eu beaucoup de mal à représenter une mer calme. C'est pour ça qu'on a énormément de tempêtes, de choses assez spectaculaires. Pour un fleuve comme ça, qui peut être aussi spectaculaire, mais quels étaient les enjeux de le saisir en dessin ?
Moi, je prends ce genre d'exercice sous un aspect ludique. C'est un jeu. C'est un jeu. Le jeu consiste à identifier, puis tenter d'immobiliser, de reproduire des ambiances. Alors, c'est des choses assez fines. Ça nécessite pas forcément, d'ailleurs, un travail très réaliste. C'est pas du tout ce que je cherche. Je cherche pas à être fidèle aux choses que je vois sur le fleuve. Je cherche à être fidèle aux ambiances, aux sensations que ça me procure. Là, c'est l'image qui est là, par exemple, voilà, une scène estivale avec une Loire presque blonde, avec des gens qui sont au bord du fleuve à plus ou moins se baigner. Voilà, comment je passe au bord du fleuve, je vois ce genre de choses, je le photographie mentalement, et après je cherche à en retranscrire non pas la véracité, mais l'ambiance. Donc toutes les images, notamment ces grandes images muettes dont le livre est parsemé, c'est ça, c'est des espèces de petites photographies mentales que je retravaille ensuite à l'aquarelle. L'aquarelle, évidemment, ça a aussi cette vertu d'être... ça passe ou ça casse. Enfin, on peut pas remanier à l'infini une aquarelle, quoi. On pose quelque chose, c'est bien, tant mieux, c'est pas bien, tant pis. Alors, quand c'est vraiment pas bien, on le refait, évidemment. Mais il y a une grande part de surprise, il y a une grande part d'improvisation. Et c'est très amusant à faire. C'est même un peu hypnotique, il faut y faire gaffe, parce qu'on peut y passer beaucoup, beaucoup de temps. Et tout ça ne doit pas non plus nous faire perdre de vue qu'on est d'abord sur un travail de récit, et donc tout ça doit s'articuler en termes de rythme. Et l'alternance des scènes, des couleurs, des scènes de jour, de nuit, d'hiver, d'été, de cru, de sécheresse, toute cette alternance-là contribue visuellement aussi au rythme du livre. Donc c'est un jeu qui est à la fois ponctuel sur chaque image, et en même temps qui ne doit pas perdre de vue que tout ça se passe sur 100 et quelques pages, et que sur l'ensemble du livre, il doit y avoir cette variation que j'aime bien soigner.
Un album en couleur, c'était une évidence pour vous dès le départ. Ça n'a pas été le cas de tous les albums. Les Ignorants, Le Droit du Sol n'étaient pas racontés pourtant, montrés pourtant la nature, mais n'étaient pas en couleur.
Pour Loire, oui, c'était une évidence. C'est-à-dire que les lumières du fleuve nécessitaient de le faire en couleur. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait un livre en couleur. Je fais des livres qui sont souvent en noir et blanc, c'est vrai, parce que je n'en ai pas besoin. En fait, j'aime bien, j'adore pratiquer l'aquarelle, mais la question que je me pose quand je commence un livre, c'est de quoi ai-je besoin ? J'ai besoin de quel format ? J'ai besoin de quelle technique ? Et les besoins en question, c'est ceux du récit, c'est ceux que commande le récit. Parfois, la couleur, elle serait une perte de temps, elle serait une espèce, du point de vue du lecteur, quelque chose qui va le distraire, de décoratif. Je veux surtout pas que ce soit décoratif. Évidemment, quand on essaie de choper des ambiances du fleuve, ça passe par la couleur. Et l'aquarelle, tant qu'à faire, parce que l'aquarelle, c'est... je fais jamais de couleur numérique, je m'emmerde devant un ordinateur. Alors qu'avec des pigments, des pinceaux, de l'eau, on s'amuse bien, même si c'est un peu incertain. On peut pas faire on n'a pas de touche retour arrière quand on se plante. C'est ça qui manque un peu sur l'aquarelle. Ouais. Alors que sur l'ordi, on le fait facilement. Et puis au bout de... Je sais pas, j'avais sans doute fait les deux tiers des couleurs du livre. On prend beaucoup d'eau pour l'aquarelle. Je me suis rendu compte que là où je vis, au robinet de ma cuisine, c'est de l'eau de Loire qui vient. Donc je me suis dit, ah tiens, c'est pas mal en fait. Je fais les couleurs de Loire là, avec l'eau de Loire. Ça sert absolument à rien comme anecdote, mais moi, ça m'a fait plaisir quand je l'ai découverte.
Jusqu'où la Loire infuse l'album et infuse le travail. Et je reviens sur comment représenter la Loire, parce qu'effectivement, c'est souvent des paysages où la Loire, c'est un fleuve qui est large, mais pas si large que ça. Donc il y a souvent des berges, il y a souvent des gens, des bouts de nature autres que l'eau qui sont là. Mais représenter l'eau, signifier l'eau, est-ce que c'était un défi ou pas du tout pour cet album ? Enfin, pas l'eau d'ailleurs, cette eau-là de la Loire.
Oh, c'est pas un défi au sens technique. Encore une fois, moi, je compte plutôt sur l'addition des images pour donner cette sensation-là. C'est-à-dire que, évidemment, chaque image, il y a presque dans chaque image, on voit l'eau du fleuve, presque. Il y a quand même des scènes qui se passent à la maison, autour de la table. Des scènes
quand il enlace l'arbre, l'arbre, il n'est pas les pieds dans l'eau.
Voilà, c'est ça. Encore que si on le fait maintenant aussi, là, aujourd'hui. Mais la sensation qu'on peut retirer du livre, la sensation de Loire qu'on peut retirer du livre, elle sera due uniquement à l'accumulation des images, puisque la bande dessinée, c'est des centaines d'images. Et donc, c'est à travers l'accumulation de ces images-là, plutôt que la succession de chaque image, que j'espère procurer un sentiment de Loire. Après, ça, c'est encore une fois très, très personnel. Il y a des gens qui lisent ce livre-là en se concentrant sur le récit et qui vont un peu survoler, voire un peu zapper les images muettes, qui sont des images d'atmosphère. Puis il y a d'autres lecteurs ou lectrices qui feront le choix de s'y immerger profondément. On a la liberté absolue du lecteur ou de la lectrice. Et puis parfois, des gens font deux lectures. Une lecture pour savoir ce qui se passe, puis une autre lecture pour ressentir ces ambiances-là. Très bien.
Mais là, justement, alors, pas forcément jusqu'où vous avez pensé cette double lecture, mais puisque vous l'avez dit, effectivement, il y a des cases et des pages entières sans texte qui sont juste contemplatives des représentations de la Loire. Comment vous les avez pensées dans l'articulation avec le scénario, à la fois dans le rythme de l'histoire et dans ce que ça pouvait apporter de différent? Parce qu'on n'a pas, en tant que lecteur, on n'a pas forcément les mêmes sentiments qui sont mobilisés quand c'est l'histoire ou quand c'est juste des images données à voir.
C'est vrai qu'on, quand on arrive sur des séquences d'images et de pages muettes, du point de vue de l'auteur du livre, on lâche un peu la bride. Et là où on avait un peu le contrôle de ce qui se déroule au fur et à mesure des pages, parce que les personnages interagissent, il y a des dialogues, il y a des actions. Là, on se retrouve sur des séquences de pages muettes. Moi, je visualise un peu ça comme ça. La personne qui va lire le livre, je la lâche dans cet espace-là, je la récupère au bout pour continuer une autre séquence dialoguée où j'ai plus la main, si j'ose dire. Mais c'est cette espèce de petite liberté qu'on donne à la personne de errer là-dedans plus ou moins longtemps, ou pas du tout. Mais du coup, ça fait une lecture qui est un peu sur deux modes. Mais ces grandes images muettes-là, pour moi, puisqu'on se demandait tout à l'heure si la Loire avait des choses à nous dire, je me dis que si un fleuve peut nous parler, il ne peut pas nous parler sur un mode verbal. Et donc, ces grandes séquences d'images muettes, panoramiques, avec la faune, la flore, les habitants de la Loire, l'été, l'hiver, c'est ma petite tentative à moi, incertaine, de donner la parole au fleuve. C'est-à-dire que le fleuve nous parle à travers les sensations qu'il nous procure. C'est un peu ce que j'essaie de mettre en scène.
Et qu'est-ce que vous cherchez à représenter? Quel morceau de paysage, d'ambiance a d'abord pu donner l'idée de l'album, et ensuite, vous avez apporté quelques photos, donc on peut commencer à les voir. Qu'est-ce que vous cherchez dans la nature, dans le paysage, pour nourrir cet album?
Je cherche une scène, je veux dire au sens théâtral du terme, une scène où je vais poser le récit que je suis en train d'imaginer. Donc là, en l'occurrence, l'arbre que vous voyez là, c'est un arbre qui joue presque un rôle de personnage aussi dans le livre, qui a une fonction importante, qui est situé dans un pré à l'embouche, enfin à l'endroit où la Maine se jette dans la Loire. Donc géographiquement, c'est la Loire angevine, en gros entre la ville des Ponts de Cé et l'île de Béhar. C'est la Loire où moi j'ai vécu. J'ai vécu sur une île là pendant 8 ans. Je vis tout près. Je la connais bien. Et donc, comment je procède? Très simplement, je déambule beaucoup et j'imagine où vont passer mes personnages, ce qui va s'y produire. Et parfois, la topographie des lieux me suggère ou m'impose des modifications à ce que j'avais prévu. Et donc, je laisse venir ça avec plaisir parce que c'est une façon de laisser mon récit s'incruster quelque part. Et je fais ça très souvent. C'est ma façon de poser mes récits sur des paysages. Et donc, c'est un travail de repérage, qui est quasiment la partie la plus agréable du job. Ça consiste à se balader et à faire des photos. Et je fais ça longtemps. Et à partir de là, une fois que j'ai posé mon récit dans un lieu, je vais le dessiner. Là, presque chaque image pourrait être dotée d'une balise GPS et vous pouvez aller vous balader, voir cet arbre, voir... J'ai juste fait une infidélité à la réalité. C'est que... Alors ça, c'est le rocher d'où plonge... D'où plonge la petite fille d'Agathe. La maison d'Agathe n'existe pas là où je l'ai dessinée. Elle existe à 40 km plus en aval, mais ça fait longtemps. Ça fait depuis que je suis enfant, je passe devant cette maison qui est sur un petit tertre. Et l'hiver, elle est entourée d'eau. Et quand j'étais môme, ça me faisait fantasmer. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais la prendre, puis je vais la ramener 40 km en arrière. Donc je l'ai posée dans un champ, virtuellement. Je l'ai posé dans un champ vide et c'est là que se déroule l'essentiel du récit quand il est autour de la table, enfin les gens qui discutent en dînant, etc. Mais cette maison existe, mais elle n'existe pas là. Voilà. D'ailleurs, quelques lecteurs affûtés m'ont fait remarquer qu'elle a un toit en tuiles et que dans la Loire-Angevine, il n'y a pas de maison avec des toits en tuiles. C'est un indice.
Il y a toujours quelqu'un pour dire qu'il manque un bouton et une chemise. Ou que, voilà,
et en l'occurrence, il a raison.
Il a raison, bah, évidemment. Le fait que vous connaissiez très très bien ce paysage, est-ce que c'était une... La question est un peu bancale, mais est-ce que c'était une contrainte ou pas du tout ? Dans les ignorants, c'était cette rencontre avec un vigneron, il y avait cette idée de découverte. Là, le fait que vous la connaissiez très bien, est-ce que vous étiez contraint entre la réalité et l'imaginaire ? Est-ce que l'imaginaire devait sans arrêt coller à ce qu'était la réalité ? Ou est-ce que vous avez pu quand même faire, outre ce que vous dites de cette véracité géographique à part la maison, vous devez faire quand même avec ce qu'il y avait, forcément avec ce qu'il y avait ?
Alors, je n'oppose pas la contrainte et la liberté. Il me semble même que les contraintes sont un facteur de liberté, parce que ça nous propose des choses auxquelles on n'aurait pas pensé soi-même. C'est ce que pratique, par exemple, je fais un aparté, mais Loubapo, l'ouvroir de bande dessinée potentielle,
qui est l'équivalent
de Loulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. C'est un jeu qui consiste à s'imposer des contraintes complètement, éventuellement stupides, pour produire un récit. Et comme on n'a pas le choix, on a le choix de s'imposer les contraintes, mais une fois qu'on les accepte, on produit des récits qu'on n'aurait pas produits autrement sans s'imposer ces contraintes-là. Ça, je ne suis pas dans ce cas-là, hein. On est très très loin de Loubapo, là. Ce n'est pas une contrainte formelle aussi forte, mais j'aime bien, moi, laisser venir des choses pas prévues, entre autres, par exemple, parce que la topographie des lieux me l'impose. La longue balade que fait Louis à poil au début, moi, je l'ai faite. Habillé. Je l'ai faite pour être sûr que ce soit faisable dans une nuit, par exemple, pour regarder combien de temps ça prend, par où on passe, s'il y a trop d'eau, on passe là ou pas là. Enfin, voilà. C'est un peu idiot parce que personne ne va les vérifier, mais moi, j'ai besoin de ça. Je solidifie un peu mon travail comme ça.
On peut voir d'autres images. Voilà, c'est les nouveaux bateaux.
Ouais, on appelle ça une toux cabanée. C'est un bateau, une toux cabanée en deux mots. C'est un bateau de Loire. Sur lequel on peut même vivre, parce qu'il y a une petite cabane, d'où le nom, et c'est des bateaux qui arpentent le fleuve en ce moment. Ouais.
D'autres images, voilà. Je disais tout à l'heure que la Loire était, voilà, c'était pas peut-être aussi spectaculaire que certains fleuves, mais il y a quand même des pièces étranges, des morceaux étranges qui nourrissent aussi l'imaginaire, là.
Oui, ça, c'est la pierre bécherelle, qui est un bout de caillou bizarroïde planté au bord du fleuve. C'est le résultat de... Elle n'est pas naturelle, hein. C'est un reste de carrière. C'est maintenant une école d'escalade, et c'est l'endroit où Louis va réaccoster après sa dérive dans la Loire. Voilà. Et donc, pour un dessinateur, évidemment, ces choses-là, c'est très amusant, comme vous pouvez vous en douter, parce qu'il y a toutes sortes de ponts sur le fleuve, et il y a des choses qui sont déjà très graphiques en soi. Un pont comme ça, c'est une invitation au dessin. À la photo d'abord et au dessin ensuite.
Un jeu avec la géométrie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un banc ?
Si je ne faisais pas mes repérages à pied sur les bras de Loire un peu isolés et desséchés, jamais j'aurais eu l'idée de dessiner un demi-banc en plastique échoué au bord du sable. Donc en me baladant, j'ai découvert ce truc-là, je l'ai photographié et il figure dans le livre. C'est typiquement la contrainte dont on... Enfin, c'est pas une contrainte, mais c'est pas quelque chose que je ferais naturellement. Personne n'imagine qu'un demi-banc en plastique va se poser quelque part dans le fleuve. Il se trouve que si, bah, je l'utilise. Voilà. En même temps, ça fait sens. C'est-à-dire que la question de la pollution de la Loire, la question des plastiques, la question... C'est pas gratuit.
Alors, ici, on est sur la maison du passeur. Hop.
Donc, ça, ce sont les lieux que j'ai utilisés. Alors, ça consiste aussi à demander les autorisations aux gens de pouvoir utiliser leur champ et leur maison comme décor.
C'est pas une obligation, c'est une obligation que vous donnez.
Ah oui, c'est une obligation que je donne moi. J'aime bien l'idée que les gens soient d'accord, parce que du coup, ça me permet d'y venir souvent. Ça me permet aussi de pas les surprendre le jour où ils voient un bouquin débarquer avec leur pré ou leur champ dedans. Ça fait partie du plaisir du travail, c'est-à-dire qu'on rencontre des gens, on discute avec eux, on leur parle de ce qu'on va faire, ils nous donnent éventuellement des infos qu'on n'aurait pas eues sans les voir. Donc c'est cette étape des repérages qui fait partie du travail et qui n'est pas désagréable.
Ils ont tous accepté. Ils ont tous accepté, voilà. D'autres...
Alors voilà la maison dont je vous parlais tout à l'heure, qui est...
Vous avez déplacé.
Que j'ai déplacé et que j'ai un peu simplifié aussi. Il y avait des vilaines dépendances derrière que j'ai détruites.
Voilà, c'est quand même ça aussi. Il y a la contrainte, mais il y a aussi le dessin arrange la réalité.
Le pouvoir du Alors, c'est des choses que je ne me permettrais pas dans un récit comme Le droit du sol, un récit de non-fiction où je respecte scrupuleusement les choses telles qu'elles sont. La fiction me donne l'autorisation d'abattre des pans de murs assez facilement.
Il y a un déchet de banc, mais il n'y a pas les vilains murs. Voilà, autre paysage formidable, forcément.
Bah voilà, quand on tombe là-dessus, on ne peut pas faire autrement que le poser dans son livre. Parce qu'en plus, cet arbre marche. Enfin, je veux dire, pardon, mais moi, je vois un arbre qui marche, là. Donc, c'est très appétissant, si j'ose dire.
Et voilà, et on vous retrouve ici... Au dessin. Sur les teintes, je reviens sur la couleur, les ambiances qui sont effectivement extrêmement centrales dans votre album. Est-ce que là aussi c'était un défi ou est-ce que ça a été naturel à retranscrire toutes ces couleurs, toutes ces lumières de la Loire et de ces paysages ?
C'est un peu les deux, c'est-à-dire que c'est le sujet de mon livre quasiment. Enfin, en tout cas, c'est le sujet de fond, même si y a des questions plus précises qui s'y posent. Mais ça passait par cette tentative-là. Et comme on le disait au début, c'est un objet très mobile, la Loire. Donc, il faut y passer du temps, il faut essayer de choper des ambiances qui sont éventuellement opposées, voire contradictoires. Et c'est l'accumulation de tout ça qui rend l'expérience intéressante. Donc, c'est... Enfin, en général, on peut concevoir notamment la mise en couleur comme quelque chose d'utilitaire ou décoratif, comme je disais tout à l'heure. Moi, je voulais que ce soit quelque chose qui soit réellement dans le corps du livre dès le début, parce que c'est aussi une des premières perceptions qu'on a simplement en feuilletant le livre en librairie, par exemple. Si on feuillette un... Et la bande dessinée, là-dessus, a cette singularité-là. Si vous feuilletez un roman dans une librairie avant de l'acheter, vous n'avez pas beaucoup d'infos. Si vous feuilletez un livre de bande dessinée, vous avez déjà plein d'infos, éventuellement erronées, éventuellement fausses, ou qui vous induisent en erreur. Mais avant d'aller au Cinoche, vous ne regardez pas le film en accéléré comme ça en deux minutes. Mais la bande dessinée, on peut le faire.
Il y a les bandes annonces maintenant qui racontent tout. Ouais.
Oui, qui sont parfois assez. Oui, c'est vrai. Mais donc, il y a ce qui peut être la première rencontre avec un livre de bande dessinée dans une librairie, c'est ce feuilletage et voir ce qui s'en dégage de façon un peu furtive comme ça. Et c'est ça qui se joue à ce moment-là, peut-être.
Avec beaucoup de dessins sur place, là, évidemment, je suppose que c'est plutôt dans votre atelier, chez vous, que
c'est
vous faites.
C'est exclusivement dans mon atelier. Ouais.
Je il n'y a pas eu de croquis, de non. Mise en couleur sur place.
Je sais que c'est un peu décevant, mais je dois la vérité. Alors, il m'arrive de faire des croquis quand je me balade en montagne avec un carnet, etc. Ça, c'est le plaisir du dessinateur. Le dessinateur et l'auteur de bande dessinée, c'est deux personnes différentes. Quand tu fais de la bande dessinée, ce sont des images qui sont sous contrainte. Il y a des cadres, il y a des images qui se voisinent, il y a des textes insérés dessus. C'est pas des choses qu'on fait aisément sous un arbre, assis dans l'herbe. Donc moi, je fais toute ma documentation avec mon appareil photo. C'est des photos tout à fait basiques, hein. C'est des photos simplement qui sont des pense-bêtes. Et c'est dans mon atelier que je remets tout ça en images et en dessin, y compris l'aquarelle, évidemment. Et donc, c'est pas. Enfin, je connais assez peu d'auteurs de bande dessinée qui font réellement leur page de bande dessinée sur le motif, en quelque sorte. On peut utiliser des dessins faits sur le motif et les intégrer dans une planche, mais faire des pages de bande dessinée sur le motif, ça me semble un peu compliqué techniquement.
Voilà, on voit effectivement l'aquarelle.
À l'eau de Loire.
À l'eau de Loire. Absolument. Et voilà, alors ça c'est une question que j'aime bien poser, parce que je sais que beaucoup de gens soit aiment bien, soit connaissent pas, c'est interroger un peu et raconter un peu les différentes étapes de travail, c'est-à-dire qu'entre l'idée originelle, vos balades dans la Loire, et puis l'album que nous on peut découvrir aujourd'hui, par quelle étape vous passez, comment le dessin prend forme, et en termes de place, de rythme, de narration, et puis comment les différentes étapes vont affiner le trait et l'épaissir.
Alors, j'ai pas de réponse très très rationnelle à cette question, je le crains. La bande dessinée, que moi je la conçois, c'est un langage hybride, ça va de soi, entre texte et image, dès le départ. C'est-à-dire que j'écris pas d'abord ou je dessine pas d'abord. Enfin, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre, ça. Moi, je procède de la façon suivante. Donc, pour résumer, j'imagine un récit, je lui trouve une scène, ce qu'on vient de dire, en l'occurrence, cette partie du fleuve. J'affine un peu les séquences et les dialogues de façon très ouverte. Je ne les écris pas, je les mentalise. Et puis, je commence à crayonner. Alors, je fais des choses que je montre assez peu parce que ça fait un peu psychopathe. C'est vraiment des crayonnés de planches qui sont vraiment... Ce n'est même pas du bonhomme patate. C'est des hiéroglyphes qui sont déjà du dessin, mais pas encore du vrai dessin. C'est des espèces de signes que je suis le seul à pouvoir identifier. Et encore, deux jours après, je me dis, qu'est-ce que j'ai dessiné là ? Putain, je ne sais plus. Mais j'ai besoin de cette étape-là où le texte et l'image ont commencé à prendre leur place, mais de façon très embryonnaire. Et donc, c'est encore pas très lisible. Et progressivement, j'arrive à une étape où je sais à peu près ce que comporte, combien de cases il y a, quelle forme elles ont, ce qu'elles comportent. Et là, j'arrive à cette étape que vous voyez là, qui est celle du crayonné. Donc là, j'utilise pour celle-ci de la documentation. Ça, c'est une image que j'ai faite sur la toux cabanée d'un ami marinier. J'étais avec ma fille, je vous présente ma fille Clara. Et donc cette image-là, je la crayonne, et après c'est assez traditionnel, je la passe à l'encre et ensuite à l'aquarelle. Alors voilà l'étape finale, voilà, c'est la même image, quelques heures après. Et ce procédé-là...
Il y a un truc magique pour nous à chaque fois.
Il y a un truc magique ?
Bah ouais, quand on voit le résultat final par rapport à d'où ça vient...
Ouais, alors vous voyez le résultat final par rapport au crayonné, mais moi j'ai l'image d'avant, celle que j'espérais faire. Et là, c'est vachement moins magique. Mais bon, c'est comme ça.
Oui, mais on ne sait plus qui nous disait hier, c'est pour ça qu'on fait des livres encore après pour essayer de,
ah oui, bien sûr,
de s'améliorer.
Je crois que chaque livre, on le démarre sur les échecs du précédent. C'est-à-dire que le jour où je fais le livre que j'espérais faire, je suis un homme fini. Je n'ai pas de raison de faire le suivant, quoi. Donc c'est vrai qu'on a toujours... Alors, je noircis un peu le tableau, il ne faut pas déconner, mais il y a toujours cette petite accumulation de remords et d'échecs qui fait qu'on se dit « Ok, je n'ai pas passé loin, mais ce n'est pas ça. J'ai recommencé. »
Heureusement pour nous, l'album il nous paraît parfait, complet et très plaisant à lire. Mais justement, en quoi est-ce qu'il ressemble ou pas à l'idée originelle que vous en aviez ?
Ah, il ressemble jamais, je crois pas. Enfin, c'est pas possible. Parce que déjà, l'idée originelle, elle est assez ouverte, elle est assez mouvante, donc elle est en soi, par nature, impossible à figer. Mais c'est une des... Ce qui prend corps au final, et qui est cet objet physique qu'on a là, avec du carton et du papier, c'est la concrétisation d'une des centaines d'hypothèses possibles avec l'idée de départ. Ça aurait pu être celle d'à côté, ou celle d'avant, ou celle d'après. C'est celle-ci qui est arrivée. C'est pour ça que prétendre qu'on contrôle vraiment ce qu'on fait me semble un leurre. On contrôle pas. Enfin, moi, je contrôle très très peu de choses. Il y a des choses techniques qu'on applique, mais je pense que le livre qu'on fait nous échappe grandement et ça me va bien. Je veux dire que plus j'écris, ça fait 30 ans que je fais de la bande dessinée, et moins j'ai envie de préparer à l'avance. Plus j'ai envie d'être mon propre lecteur. Et donc, au grand dam de mes éditeurs, d'ailleurs, qui aimeraient bien que je leur livre un scénario bouclé à l'avance. Et non, c'est mort, c'est fini.
C'est plus rassurant pour eux.
C'est plus rassurant, ça leur donne une visibilité, une lisibilité, ça leur permet de comprendre où je veux aller. En fait, là, sur ce livre-là, typiquement, je n'ai pas réellement écrit de scénario. J'ai invité mes éditeurs à deux jours sur les lieux.
Je le réfère. Il était là, d'ailleurs, Claude Gendreau, mais je n'ai pas l'impression.
Je ne sais pas si Claude est là. Non, il n'est pas là, parce qu'il habite dans le coin, il aurait pu se déplacer, mais il ne l'a pas fait. Oui, bref, et on en discute de façon ouverte, comme ça. Et donc, ils ont, en repartant, une idée à peu près générale de ce que je vais faire. Et après, voilà, je leur envoie les pages au fur et à mesure, et on en discute, évidemment, parce que c'est leur rôle. Mais c'est vrai
aussi, que ça vous laisse du coup beaucoup de liberté,
voilà,
pour changer.
Ça oblige à être attentif en permanence à ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on ne s'endort pas sur les rails d'un truc qu'on a déjà écrit, qu'on est en train de mettre en image sagement. Et puis ça permet de s'ouvrir aussi à toutes les hypothèses imprévues qui arrivent 6 mois après avoir commencé le livre. Donc c'est pour ça que l'hypothèse d'avoir une idée d'un livre au départ et l'avoir la même à l'arrivée, elle est improbable et elle serait sans doute un peu déprimante.
Ça donne donc Loire, cette bande dessinée, votre nouvelle bande dessinée, parue aux éditions Futuropolis. Merci beaucoup, Étienne Davodeau, d'être venu nous en parler.
Merci à vous.
Merci beaucoup à vous d'être venu pour cette rencontre. Je vous encourage évidemment à continuer les rencontres pour Jardin d'hiver. Et vous allez pouvoir retrouver Étienne à la sortie de la salle pour une séance de signature de son album. Bonne suite de festival.